LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Miss Kittine, technothérapie, de rêve en rêve, un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Gaël Gillon. En 25 ans de carrière, on l'a vu en robe à pois, dans des combinaisons latex et des blouses d'infirmière. La techno est son remède. À l'étroit dans les écoles de graphisme et d'art, Caroline Hervé laisse tomber les crayons et devient Miss Kittine, à l'écoute de son intuition. Ton espiègle et assumé, elle pose sa voix sur les BPM de rêves partis enflammés. De Barcelone à l'Ukraine en guerre, de Berlin à Sao Paulo, la grenobloise Miss Kittine a trouvé sa place dans l'arène de la techno, en solo ou en duo, avec son complice de The Hacker, Michel Amato. Présenter Miss Kittine, c'est dresser le portrait en creux des artistes techno-nomades et de la scène électronique française. Avant d'être acceptée chez nous, Miss Kittine doit chercher des lauriers à l'étranger. Le DJ londonien Mark Moore a pu quitter les squats pour une vie de star, car lui aussi a cru en lui, et Miss Kittine l'a emballé dès le premier tour de sillon.
J'ai découvert Miss Kittine avec le morceau Frank Sinatra, qu'elle a fait avec The Hacker. Je l'ai joué à mort, cette voix. Et quelque temps après, j'ai écouté une ribambelle d'artistes qui essayaient d'imiter la voix de Miss Kittine. J'ai tout de suite trouvé ce son inspirant. Et enfin, quelqu'un réintroduisait le fun sur le dance floor. Cette ère de l'électroclash a été un peu calomniée, de façon injuste, je trouve. C'est sans doute parce qu'on a rangé plein de styles de musique différentes dans cette catégorie. Mais ce qui était bien, c'est que ça a favorisé le retour des déguisements et du fun dans les clubs. Et Miss Kittine était vraiment la figure de proue d'une scène électroclash. Peut-être que ça dérange des gens d'être classés électroclash. Mais avec le recul, on se rend compte à quel point c'était chouette. Ceci dit, elle est plus qu'électroclash. Elle est très versatile et créative. Et la première fois que je l'ai rencontrée, je lui ai dit « C'est génial, j'adore Miss Kittine, j'adore tes disques. » Et elle m'a dit « J'adore tes disques aussi, j'adore S-Express. J'ai tellement dansé dessus. » Donc on s'est très bien entendu. Et c'est quelqu'un de vraiment adorable. J'écoute chacune de ses nouveautés. Et à chaque fois, je me dis « Mais oui, c'est super ça. » Elle est toujours dans le coup.
Alexis Bernier a cofondé le magazine musical Tsugi. Il a suivi les premiers pas de Miss Kittine quand il écrivait sur la musique électronique pour le journal Libération. Comme beaucoup d'autres, il est surtout impressionné par le souffle de son arrivée.
Mais Caroline, c'est un de ces personnages de la scène électronique française. Très vite, elle a réussi à s'incarner. Il y avait peu de filles à l'époque. Elle a réussi à s'incarner dans la scène avec un personnage assez fort, de Betty Boop techno... À la fois déluré et surtout, ce qui a été formidable, c'est le moment où elle s'est associée avec The Hacker pour faire ce duo qui a d'abord marché à l'étranger avant de marcher en France. Ils ont eu l'idée géniale de rajouter des paroles. Ça a créé un nouveau sous-genre qu'on a appelé l'électroclash, qu'elle incarnait comme ça avec cette voix à la fois froide et très ironique. Avec des textes très rigolos sur un fond de musique très synthétique qui avait un côté très new wave.
Miskitine. Le morceau 1982, donc, qui figure sur votre premier maxi vinyle intitulé Champagne, que vous avez composé en duo avec votre acolyte The Hacker, a été joué en clôture de la Love Parade en 1998 à Berlin devant 1 million de personnes. Donc c'était le plus grand rendez-vous techno mondial à l'époque et sans doute encore aujourd'hui. Vous aviez 25 ans. Ce soir-là, quand vous avez appris la nouvelle, peut-être que vous étiez sur place, ça vous a réconforté, ça vous a conforté dans vos choix. C'était un point de non-retour.
Alors, la première fois que ce morceau était joué, j'y étais pas, en fait. J'ai toujours du mal à réaliser parce que on a fait ce morceau dans la banlieue de Grenoble, dans la chambre d'ado de Michel, The Hacker, et on a envoyé cette cassette à DJ Hell, qui est le patron d'un label à Munich. Et un jour, il nous appelle, et on ne savait pas qu'il voulait sortir ces morceaux. Et il nous dit, je le joue partout, je le joue à Berlin, c'est la folie. Et nous, de notre petite banlieue grenobloise, on avait du mal à y croire. Et effectivement, quand il l'a joué, parce que c'est lui, je crois, et puis après, tous les DJ à Berlin le jouaient, c'était difficile à croire pour nous, parce que quand on a fait nos morceaux, on n'attendait rien. Et c'est peut-être pour ça que ça nous est arrivé. Et ensuite, je ne sais plus en quelle année c'était, j'ai moi-même joué à la Love Parade, à la Ziege Säule, qui est la petite statue qu'on voit dans les ailes du désir de Wim Wenders, où chaque DJ jouait une demi-heure devant un million de personnes. Et ils ont dit Miskitine from Grenoble, France. Et là, j'ai encore des frissons en le disant. Je me suis dit, ah, mince, alors j'aurais jamais imaginé. Et dans la foule, il y avait mon père et ma belle-mère. Et ils m'ont vu partir dans les raves quand j'étais jeune adulte. Et ils se faisaient énormément de soucis. Et là, l'attitude de mes parents a totalement changé à ce moment-là. Ils ont réalisé que c'était pas n'importe quoi. Et c'est des souvenirs qui sont très précieux, justement, parce que inimaginables.
In 1982, I had this band that we did electronic music at the time.
So what do we see on the footage?
No, we see
myself. C'est mon ancien groupe de musique électronique en 1982. Et là, sur ces images, on me voit jouer du synthé. C'était à l'Académie d'art de Münster. Tiens, j'avais plus de cheveux à l'époque.
Vous aviez une cravate ?
Oh oui. Mes héros à l'époque, c'était un groupe allemand New Wave qui s'appelait DAF. Pour moi, c'était les pionniers de la techno.
À peine installé sur une terrasse de l'Alexanderplatz à Berlin, DJ Westbam dégaine son Mac et lance une vidéo de son concert à Münster au début des années 80. À l'écouter, il a tout inventé. Il parle surtout de lui, mais pour Miskitine, il fait une petite exception.
C'est rare qu'une réalisation de l'Allemagne de l'Est soit belle, mais mon bâtiment préféré à Berlin, c'est la tour de la télévision. Donc aujourd'hui, et c'est pas vraiment courant pour les vrais Berlinois, j'habite Alexanderplatz, dans un bâtiment qui ressemble à une soucoupe volante, juste à côté de la tour, là où nous sommes.
If you walk down Karl-Liebknecht-Straße in that direction,
et d'ici, at some point, si vous descendez l'artère Karl-Liebknecht, au bout d'un moment, vous allez tomber sur la porte de Brandenburg, qui est un peu l'arc de triomphe de Berlin.
Arc de triomphe in for Berlin, and that's basically where.
Et c'est là que la Love Parade fait demi-tour.
Tell us more about the Parlez-nous un peu du morceau 1982 que vous avez joué à la fin de la Love Parade. Pourquoi avoir choisi ce morceau de Miss Keating?
Eh
bien, le morceau 1982 me ramenait aux premiers jours de la musique dance électronique. Et elle y fait référence plusieurs fois dans ses textes. Elle dit « Allons au rendez-vous comme en 1982, le DJ joue Blue Monday. » Et c'est tout à fait vrai. Le DJ jouait Blue Monday en 82.
Blue Monday in 82, you know, and it blew my mind when I heard it in Ratingenhof in Düsseldorf.
Et j'ai pris une claque quand j'ai entendu ce morceau la première fois à Düsseldorf. Le son et les paroles racontaient une histoire à laquelle je pouvais m'identifier. Parce que c'était aussi mon histoire. Et c'est pour ça que je l'aimais tant.
Maybe why I liked it so much. Also, she had a slight French accent.
Et puis elle avait un léger accent français, et ça avait son charme. J'ai suivi sa carrière et je trouve que c'est une très bonne DJ. Je ne dis pas ça de tout le monde. Ce ne serait pas convenable de dire qu'elle a des couilles, mais elle balance des morceaux dans ta face. Et j'aime bien les DJ qui n'ont pas peur de jouer des morceaux qu'ils aiment vraiment. Il y a tellement de DJ qui manquent d'audace et qui se retiennent. Si tu te contentes de jouer ce que les gens connaissent déjà, ça ne donne jamais rien d'excitant.
Nothing exciting happens.
Vous avez eu votre épiphanie lors de votre première rave. Vous êtes rentré donc le lendemain dans l'après-midi et votre mère vous a grondé. Parlez-nous un peu de cette épiphanie, de ce qui s'est passé cette nuit-là, lors de cette rave. Pourquoi est-ce que vous avez compris ce soir-là que c'était ça la vie que vous souhaitiez ?
D'abord, c'est une expérience qui est avec moi tout le temps. Chaque fois que je joue, j'ai conscience que dans la salle, il y a peut-être une personne qui va rentrer chez elle et qui va avoir l'énergie de transformer sa vie et en faire ce qu'elle veut. Et c'est, je crois, la chose fondamentale dans mon métier et qui fait que je continue. C'est cette sensation qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que soi, de terriblement humaniste et porteur d'espoir. Et lors de ma première rave, on était une petite poignée de Grenoblois à partir en voiture dans un casino à Aix-les-Bains qui avait été loué. Et à l'époque, les promoteurs, les organisateurs ne disaient pas que c'était pour une rave, parce que même rave, on ne savait pas ce que c'était. Les policiers disaient « rave ». Et il faut imaginer, à l'époque, de rentrer dans une salle avec de la musique répétitive, des strobes et des gens qui dansent comme des fous furieux, sans aucun siège. Dans le noir, ça peut être totalement effrayant pour le commun des mortels. Et nous, quand on est rentré dans cette salle, c'est une expérience immersive où tous nos sens sont bousculés et la musique, comme une forme de transe qui existe depuis la nuit des temps, vient nous faire basculer dans un imaginaire et une stimulation cérébrale qu'on ne nous a jamais appris ou qu'on n'a jamais vécu. Et donc, les sons deviennent des couleurs, des formes, sans drogue. Hein, c'est une sensation de liberté incroyable, de perte du temps aussi. Un moment suspendu en dehors du temps, en dehors de l'espace. Et donc, c'est très, très fort, surtout quand on est jeune. Et aussi, on rentre dans l'inconnu totalement et on prend conscience de son corps, de ses sens. Enfin, c'est bouleversant, quoi. Bouleversant au point que la vie n'est plus la même après ça. Et je suis rentrée, oui, chez moi l'après-midi parce qu'on a continué le matin dans un tout petit village. C'était des élections, je ne sais plus lesquelles. Et une mairie de village qui était une toute petite maison en haut d'une colline. Et en dessous, il y avait une sorte de mini salle des fêtes qui était peut-être le double de la pièce dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et les gens venaient voter. Et en dessous, il y avait du boum, boum, boum. Et les gens étaient horrifiés. Et nous, on se marrait parce qu'on se disait, mais ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Ils ne savent pas ce que ça fait de danser comme ça. Et je suis rentrée chez moi et ma mère travaillait dans un bureau de vote. Et pour elle, c'était l'affront total que je sois arrivée à une minute de la fermeture du bureau de vote. En fait, elle avait eu honte de moi par rapport aux autres que je ne vienne pas voter. Alors que je venais de vivre quelque chose qui était tellement plus important. Mais après, on avait des conflits, évidemment, de post-ado, jeune adulte que tous les parents connaissent, donc c'était pas si dramatique, mais c'est vrai que je suis partie ce soir-là et je suis allée vivre chez une amie, ouais. Et je me disais, c'est pas possible, je peux pas aller au travail tous les matins, je sais pas ce que va être ma vie, mais en tout cas, je vais devoir travailler dur pour l'inventer. J'imaginais pas que DJ c'était un métier, j'imaginais pas avoir un talent là-dedans. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que j'allais devoir me battre pour acquérir ma liberté.
La techno a aussi sauvé l'anglais Luke Slater. Le DJ quinquagénaire ne trouvait pas sa place dans le paysage musical de la fin des années 80. Et puis, la techno de Détroit est arrivée.
Vous aviez d'un côté les cordes et les pads qui créaient cette atmosphère, des cordes assez soul et toujours mélancoliques. Et puis vous aviez le rythme. Et c'était ce mélange unique de cordes presque cinématographiques et de sentiments qui était soutenu par ce rythme. Et le rythme était tellement important et tellement différent. Cette musique avait de l'âme. C'était comme si quelqu'un m'avait dit « Voilà, c'est ce que tu cherchais. C'est exactement là que tu veux être. »
This meant everything. There's more to the world than is perceived.
Le monde ne se limite pas à ce que l'on perçoit.
There's possible elements to the world.
Il y a tellement d'éléments que l'on ne connaît sans doute pas.
And there's so many different ways.
Tellement de façons différentes d'aborder les choses.
Ultimately,
Et je pense que c'est ce qui m'a conduit à refuser de mener une vie normale, dès le début. Je voulais à tout prix me tenir éloigné des normes sociales préformatées. Qui dicte la façon dont vous devez mener votre vie. Je n'ai pas compris ces normes quand j'étais jeune. Et l'école n'a pas été simple d'ailleurs. Parce que déjà, je ne comprenais pas ces règles. Je pense que nous avons fait des progrès à ce niveau. Mais en tout cas, moi, j'étais déjà déterminé à ne pas mener cette vie où tu te sens obligé d'agir d'une certaine façon ou d'être quelque chose que tu n'es peut-être pas. Et c'est facile de se laisser pousser et glisser vers ce genre de vie et de ne jamais explorer tes premières envies, tes premières sensations. Par conséquent, ce développement social a été très important parce que je pouvais échapper à tout ce qui était pré-programmé. Et je crois que quand j'ai commencé à être DJ dans un club, la musique, l'état d'esprit des gens qui faisaient ce qu'ils voulaient devant des publics mixtes, blancs, noirs, gays, hétéros, tout le monde se retrouvait. Et ce monde est devenu mon foyer. J'étais chez moi. Je me souviens, je me suis dit, je suis chez moi, et c'est exactement là que je veux être. Et c'est pour ça que je dis que ça a sauvé ma vie. Parce que ce n'était pas seulement la musique, c'était une autre approche sociale. Et ça a eu une importance énorme pour moi. Et je me sens encore comme ça aujourd'hui. J'essaye encore d'aller de l'avant. Je suis encore un rebelle. Pas autant qu'avant, mais se dire que l'on peut prendre une direction où on sera encore un peu inconfortable, parfois ce n'est pas une mauvaise chose. C'est ce qui pousse à l'action. Donc je fais exprès de me mettre dans des situations légèrement inconfortables.
Des choses très fortes avec la fatigue, etc. On se retrouvait dans d'immenses usines désaffectées en briques avec un son pas possible, de la grosse musique. Évidemment, on adorait, c'était un rêve de vivre ça. Et puis soudain, il fallait qu'on joue en live. Et on était sur une estrade, et moi avec le micro, dans des conditions techniques. Hallucinante aujourd'hui, où on devait se débrouiller tout seul, on n'avait pas de tour manager, on n'avait pas d'ingénieur du son, on était là avec un sac de sport, on avait avec notre bazar, et on devait jouer dans des raves. Et la pression aussi technique, etc., ben de faire ce qu'on avait à faire, pourquoi on était payé, prenait tout notre intellect. C'était très difficile d'apprécier l'expérience parce que c'était quand même très dur. Techniquement, c'était des prouesses, mais ça m'a tout appris aussi.
Et c'est un peu l'approche des pionniers de la techno à Détroit. L'indépendance, la liberté. Vous étiez assez éloigné de Détroit à cette époque-là, vivant à Grenoble, et vous ne le saviez pas encore que c'était ça l'état d'esprit de la techno.
Détroit, on en avait entendu parler. Certains DJ commençaient à jouer des morceaux de Détroit, mais ça restait très vague. Mais assez rapidement, la légende d'Underground Resistance et de Mad Mike est arrivé jusqu'à nous, et c'est vite devenu une obsession. Et on ne pouvait pas s'empêcher à Grenoble de faire un parallèle entre On voulait trouver des similitudes entre Grenoble et Détroit, même si c'est un petit peu arrogant, parce que Détroit, c'est une ville quand même très sinistrée, alors que Grenoble, pas tellement. On était très, très, très influencés par la techno de Détroit. On l'est toujours. Ça reste une influence majeure. Et quand on est allé à Détroit en 99, je crois, avec Michel, et qu'on a été chez Underground Resistance, dans leur magasin Submerge, qui nous ont demandé de signer le mur, c'était pour moi aussi important que de jouer à la Love Parade devant 1 million de personnes.
C'était un personnage aussi qui a été important dans la scène techno, dans le revival. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a besoin aussi de voir des gens. C'est-à-dire que une scène, elle est représentée par des gens. Et là, vraiment, Miss Keating, elle a représenté cette scène-là. Et par sa musique et par ses prestations de DJ aussi, le fait justement qu'elle ait un micro en DJ avec micro, c'était nouveau. C'était un truc qui était nouveau. Qui était punk un peu en fait, mais et tout d'un coup c'est devenu cool d'exister en tant qu'humain dans la musique électronique avec ses prestations. Ouais.
Miss Keating est née en 73. Elle fait partie de la deuxième vague des DJ techno. À la fin des années 90, la scène française est assez occupée. Il y a Daft Punk, Cassius, Bob Sinclair, Dimitri from Paris, Alex Goffer et bien sûr Étienne de Crécy.
En fait, c'est ça qui était super avec Miss Keating, c'est qu'elle a aussi cette économie de moyens, c'est-à-dire qu'elle fait un truc qui est hyper frais. C'est très home studio, c'est très techno en fait la manière. Alors, je sais pas son processus créatif, je sais pas comment elle fait, je sais pas si elle travaille beaucoup, mais ça se ressent. Le travail se ressent pas, ce qui est une bonne chose. Je précise parce qu'il y a des gens qui je déteste entendre le travail dans la musique. Dès que j'entends que quelqu'un a sué pour faire un truc, en général, j'aime bien moi le sentiment de facilité quand j'écoute de la musique. Et elle avait ce truc là assez fort d'avoir un truc qui semblait fait très rapidement et qui en même temps a de l'attitude. C'est hyper difficile d'avoir ça en fait, c'est-à-dire que c'est l'attitude qui fait tout. Mais c'est vrai que moi c'est la première fois que j'ai entendu, c'était Silver Screen, et que je trouvais trop bien avec son méga accent français, et le c'est quelque chose qu'on n'aurait pas osé faire. Et en fait, sur le papier, si tu veux, moi quand tu me dis ah ouais, hop, je vais chanter comme ça, je dis ah, et en fait ça marche hyper bien, je sais pas, il y a une attitude, il y a un truc qui fait que ça emporte le truc. Et ça, c'est une singularité, enfin, c'est une originalité qui est super. Alors, et justement, alors ça, par contre, on s'est croisé quelques fois avec Caroline, mais je connais pas son processus créatif. Je sais pas comment elle fait pour enregistrer, si ça lui demande beaucoup, beaucoup de travail pour obtenir ce truc-là, ou si c'est vraiment facile.
C'était pas du tout conscient. Ce qui était conscient, c'était de mettre une voix sur de la techno, ou en tout cas de l'électro. Pas l'électro, le terme générique, hein, l'électro d'Africa Bambaataa et ses enfants. Parce que d'abord, on était fascinés, oui, par Jeff Mills et par cette techno, mais on savait qu'on ne pourrait jamais faire aussi bien. Et donc, on a décidé avec Michel de faire quelque chose de complètement différent et de prendre le contre-pied de ça. Et c'est pour ça que je me suis mis à mettre des textes sur la techno.
D'ailleurs, c'était tellement surprenant au début de voir quelqu'un qui pose des textes sur cette musique et qui chante, qui occupe un espace dans l'arène, que au début, vous produisez assez peu en France, en fait.
La France ne comprenait pas ce qu'on faisait. Personne, nul n'est prophète en son pays, et c'est tout à fait vrai. Et quand on a sorti, par exemple, Frank Sinatra, qui était une blague, une satire, et mon Dieu, qu'on ne se doutait pas que ça allait être aussi prémonitoire. Mais quand on faisait écouter ça à d'autres gens, ils disaient « oui, c'est rigolo, mais enfin, c'est une blague, c'est pas sérieux ». Et on leur répondait « non, c'est pas sérieux, justement, on se moque ». Des gens qui ne savent pas faire la fête, qui ont de l'argent mais qui ne savent pas faire la fête, parce que nous on fait des fêtes dans la forêt avec des groupes électrogènes, et c'est ça la vraie fête, c'est pas d'être dans des VIP. Mais en France, personne comprenait.
Juste, il faut préciser que donc Frank Sinatra se moque justement de ces carrés VIP, de ces limousines. Sur ce même album avec The Hacker, il y a un morceau intitulé Life on MTV, qui se moque des hit parades, de la télé. C'est irrévérencieux au départ.
Mais c'était le but. Quand on a une voix, quand on a des mots à sa disposition, le but c'est de véhiculer un message sans trop se prendre au sérieux. Mais ça, c'est trop dommage d'écrire des paroles banales, trop légères. Sirupeuse, c'est presque un crime contre la langue que d'écrire « I love you, I need you, move your body to the beat ». Enfin, en house, ça fonctionne parce que c'est le disco, mais dans la pop musique, c'est dommage de ne pas avoir des paroles plus élaborées que ça. Et la techno, c'est aussi construite en réaction contre les concerts, contre des estrades avec des groupes qui jouaient live. Et d'un coup, on s'est retrouvé à remettre une scène dans un club. Mais il n'y avait pas derrière un désir de s'exposer. Ça a plutôt été... un problème pour moi par la suite, parce que on était loin de s'imaginer que les artistes techno ou électroniques allaient devenir les nouvelles rockstars aujourd'hui. Et comme en tant que femme, comme on était déjà très rare, on a été les premières en pâture à ce nouveau système. Victime du succès de cette musique, qui est normale aujourd'hui quand j'y réfléchis, c'est une évolution qui est inévitable, mais pour moi c'était pas du tout évident.
Alors en fait, au moment où c'est arrivé, effectivement la scène French Touch était à son apogée, on va dire. En fait, c'était à son apogée, c'était devenu une musique très populaire. Une musique très populaire, mais du coup qui était un peu boudée dans les clubs branchés. C'est-à-dire que c'était une musique qui était devenue, qui avait perdu son côté branché, son côté avant-garde. C'était plus du tout une musique d'avant-garde. C'était devenu une musique de la musique des balles, la musique de fêtes foraines en fait. Enfin, surtout, c'était une musique qui était devenue la caricature d'elle-même. C'est-à-dire la recette d'un sample disco qu'on filtre. On la connaissait, donc les morceaux se ressemblaient tous les uns les autres. Il n'y avait plus beaucoup d'originalité. Dans la techno, c'est quand même la recherche de nouveautés est extrêmement importante. C'est une musique d'avant-garde. On cherche les nouveaux morceaux. Les DJs ont toujours cherché les nouveaux morceaux, ceux que les autres n'avaient pas. Et donc, il y a un moment où ce son-là, il était trop connu. Et un DJ, normalement, il cherche à surprendre les gens. Et là, tout d'un coup, les clubs avant-gardistes, c'était le Pulp à Paris. Et là, tout d'un coup, effectivement, il y a un nouveau son qui est arrivé. Et en vrai, quand je dis un nouveau son, c'est un peu exagéré. Parce qu'en vrai, c'était juste que il y a des gens qui jouaient les morceaux de techno d'avant, en fait, du début des années 90, et qui ont donc recommencé à programmer des morceaux dans ces sonorités-là. The Hacker, par exemple, et Miss Keating, leur morceau, ils le faisaient en 2000, et c'était très inspiré de la techno des années 90. Et en fait, c'était un revival, en fait, de la techno. Et c'est vrai que tout d'un coup, c'était, alors déjà pour moi qui avais découvert la musique dans les raves, je me suis dit, ah mais ouais, on a pris un embranchement, on s'est trompé de chemin. Quand j'ai réentendu ces sonorités-là, je me suis dit, mais bien sûr, c'était ça qui était cool, en fait. On a, bon, même si en vrai, on s'est trompé de chemin avec enthousiasme, hein, c'était super d'utiliser les samples et de sampler du disco, c'était super marrant. Mais c'est vrai que tout d'un coup, il y avait ce côté radical. Ils nous ont rappelé en disant, attention, souvenez-vous, la techno, d'où ça vient, le côté radical de la musique. Et voilà, et donc il y a eu toute une école comme ça qui est arrivée et qui a vraiment rafraîchi la musique électronique française de manière salvatrice. We'll be right back.
Alors moi, quand j'ai commencé à sortir à Paris, c'était au Pulp.
Azo, jeune parisienne installée en Belgique depuis 2004, est DJ au célèbre club bruxellois Le Fuse.
C'était assez fou, hein. En fait, c'était un tout petit club comme ça à Paris qui était fait pour les femmes LGBT. Et à côté, je crois que c'était le Scorp qui était plus orienté mec. Et donc, du coup, il y avait des soirées le jeudi qui étaient plus mixtes. Et les résidents, c'était genre Miss Kittin. Il y avait par exemple Miss Kittin qui mixait dans un coin, il y avait presque personne. Il y avait Yvan Smack qui était résident, il y avait Jennifer Cardini, il y avait Chloé. Et je pense que c'est quand je réfléchis un petit peu à ma carrière, c'est souvent des femmes qui m'ont donné des impulsions et qui m'ont donné des opportunités de grandir. Et donc pour revenir au Pulp, c'est vraiment ce qui m'a donné un peu envie de mixer. Donc peut-être inconsciemment, le fait de voir des femmes mixer, je me suis dit « Ah ouais, en fait, c'est peut-être possible et accessible pour moi. » Et je vois qu'il y a vraiment une espèce de solidarité entre femmes et que bah, c'est pas uniquement ça, mais c'est beaucoup des femmes qui m'ont donné l'opportunité d'être là où je suis aujourd'hui.
Souvent référence à Berlin dans vos chansons, y compris dans le morceau Ostbahnhof. Vous dites en anglais, 2h de l'après-midi, un dimanche, je traduis parce que c'est en anglais, toast de pain de mie, douche et basket noir, je saute dans un taxi, il joue de la musique des années 80, le temps s'est arrêté, le mur me rappelle que ça s'est réellement passé, il y a eu un ouest et un est. J'ai été qu'une simple touriste longtemps ici, jusqu'au jour où je t'ai donné plus. C'est une déclaration d'amour ambiguë, il y a un peu de je t'aime moi non plus dedans.
Berlin, c'est comme une personne pour moi dans ma vie. C'est une ville qui permet tellement de se trouver, qui a un passage aussi initiatique pour énormément d'artistes comme Bowie, comme Iggy Pop, enfin, il y en a tellement. Mais c'est vrai que si on ne lui apporte pas quelque chose, si on fait que prendre, on va s'y perdre. Parce que c'est une ville qui va au fond des choses, qui part de ne rien, qui nous confronte à la réalité, à qui on est. C'est une ville brute, une ville dure, sous une apparente insouciance. Il faut aller derrière les murs, il faut rentrer dans les cours intérieurs, il faut rentrer dans le cœur des Berlinois pour comprendre ce que c'est. J'ai vécu à Genève 5 ans avant d'aller à Berlin, où j'ai eu la chance d'apprendre énormément de choses et de travailler aussi dans les squats. Et puis, je ne pouvais plus rester à Genève pour des questions de papier. Et Berlin m'est apparu comme la seule option parce que c'était pas cher et que je gagnais pas très bien ma vie à l'époque et que j'y avais des amis. Et donc je suis partie m'installer là-bas en 2001. Et j'ai monté mon label, ma manageuse et agent a monté aussi sa structure. Donc je me suis professionnalisée à Berlin. Mais je voyageais énormément, je travaillais beaucoup. J'ai appris un peu l'allemand. À mes heures libres, j'ai composé mon premier album. Enfin, ça a été une ville de mon passage à l'âge adulte, je peux dire. Mais ça a été aussi très difficile. Je ne dis pas que c'était pas la vie rêvée. La vie n'est pas si facile à Berlin. Ça a été des années aussi personnellement très compliquées, mais j'ai une telle affection pour cette ville que mon label y est encore, mon avocat y est encore, mes amis sont les mêmes depuis toutes ces années. Donc j'y suis très attachée. Et chaque fois que j'y joue, j'ai cette confiance dans la relation saine que j'ai avec cette ville, c'est-à-dire qu'elle m'inspire, elle me donne de la force quand j'y joue, parce que j'ai l'intention d'y donner le meilleur de moi-même et de lui rendre... Il y a vraiment cet échange fort et conscientisé avec cette ville. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien. Ouais.
Berlin est une plateforme sublime pour les DJ techno du monde entier et le public est exigeant. DJ Stingray, issu du collectif Drexia de Détroit, vit à Berlin depuis plusieurs années.
Yeah, it can be a cold place.
Les platines d'un club peuvent être un endroit glaçant pour un artiste. Car certains soirs, tu arrives aux platines devant un dance floor plein à craquer. Mais pendant les premières 20-30 minutes de ton set, tu fais peur aux gens, tu les vois quitter la salle et tu es tenté par la panique. Et tu veux tout tenter et jouer tes meilleurs tubes. Mais parfois, il faut rester fort et ne pas lâcher ton intention d'origine. Mais oui, cette position derrière les platines peut être l'endroit où l'on se sent seul au monde, comme nulle part ailleurs. Et je ne veux pas pleurnicher comme un petit bébé, mais tu veux que les gens plongent dedans. Tu veux que les gens ressentent des convulsions du début jusqu'à la fin. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça marche par vagues. Parfois, les gens ont besoin de s'échauffer et de s'habituer à ton son, parce que le DJ avant toi avait une autre vibe. Mais il faut donner à la foule, et elle est exigeante. Les gens se fichent que tu sois de Détroit. Les pionniers de Détroit, c'était il y a 30 ans. Qu'est-ce que tu fais au platine? Quel impact ont tes productions sur l'état d'esprit des gens? Quel impact sur les gens du dance floor? C'est ça qui compte. Ce n'est pas d'où tu viens. Ton origine ne te donne pas de pouvoir magique. Il faut aller bosser derrière ta console, avoir de l'imagination, une vision et étudier. S'intéresser aux autres artistes, à d'autres scènes, à d'autres modalités et d'autres façons de faire. On ne peut plus se pointer et dire qu'on est une rockstar. Il faut le mériter.
I have to kiss so many chicks. I got the fave, I got the tricks. I have to put guests on the list.
Miss Kittin, vous êtes professionnalisée à Berlin jusqu'au stade où, en fait, finalement, la vie n'était plus qu'un pied-à-terre. Donc, c'est une vie un peu punk, techno, jet-set, galère. Et ça, vous l'aviez anticipé, vous étiez préparé ou non ?
Oui, il faut savoir que dans ces métiers-là, on travaille la nuit, on travaille des heures très longues, c'est-à-dire qu'un musicien classique, il fait un concert de 21h, aller à minuit maximum, où les concerts durent 1h30, 2h, il y a des pauses, et puis on va se coucher. Alors que nous, parfois, on joue des sets de 3h, on peut jouer, ou 4h, ou même on peut faire toute la nuit, 1, 2, 3 fois par semaine. Donc pour le corps et les oreilles, c'est dévastateur. Il faut avoir une vie relativement saine pour tenir, ce qui n'est pas toujours notre cas. Et donc forcément, il y a un moment où on craque. Et c'est nécessaire de craquer pour trouver un rythme qui soit acceptable pour le corps et l'esprit. On parle seulement maintenant de santé mentale chez les musiciens électroniques. Et c'est
un peu tard.
C'est pas tard, c'est juste que cette musique a combien, 40 ans, 30 ans, et c'est la maturité qui amène à se poser ces questions-là.
On se retrouve à l'aéroport de Gatwick à Londres, à l'hôtel Hilton, où nous a donné rendez-vous le producteur techno Luke Slater.
I can precisely explain. We're sitting in the,
je peux vous dire précisément où nous sommes. Nous sommes assis dans ce qui est presque un jardin d'hiver à l'hôtel Hilton de l'aéroport de Gatwick à Londres. Et c'est une journée merveilleusement ensoleillée. S'ils installaient quelques plantes ici, ce serait très beau d'ailleurs. Donc voilà. Nous sommes à l'aéroport, et je dois avouer que c'est le lieu que j'arpente le plus ces jours-ci.
Luke Slater, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez et quelle est votre prochaine destination ?
Alors, je suis rentré hier du Japon, où j'ai passé 15 jours. Juste avant, j'étais à New York. Et mercredi, je vais en Colombie pour 3 dates. Et après, je rentre. Et j'ai oublié de dire que j'étais en Inde avant New York. Donc j'ai couvert pas mal de continents et vu plein de choses différentes cette année.
For some reason, I find it quite fitting to do this interview as we're hearing airplanes flying over.
Right.
Because I may be wrong, but it seems that. Alors, je trouve, Luke Slater, que le concept de l'interview dans un aéroport, alors que des avions nous passent au-dessus de la tête, est en effet assez approprié, d'autant plus que j'ai l'impression que les thématiques du voyage, du transport, des carrousels de bagages, de ces zones de transit, ces thèmes sont souvent abordés dans les premiers disques techno de Détroit. Est-ce que ce sont des thèmes qui vous inspirent, vous aussi ?
You mean that kind of reflective?
Vous voulez dire cet état de réflexion
concrete,
au milieu du béton,
slightly apocalyptic,
noble mais légèrement apocalyptique,
cold,
un lieu froid, source de solitude,
a worldly experience,
mais qui donne aussi l'impression d'être dans un autre monde.
Yeah, well, I suppose really.
Oui. Cette sensation a occupé une place importante dans ma vie.
For me, it's been a big part of my life. So I felt isolated.
Je me suis senti isolé, seul, et même décalé dans mon enfance.
And these idea of,
et cette expérience de la mélancolie.
The idea of another world.
Et l'idée qu'il y avait peut-être un autre monde était très importante à mes yeux. Quand j'étais enfant, l'idée qu'il y avait peut-être une autre façon de penser me travaillait aussi. Et je crois que c'est ce qu'on ressent aussi quand on voyage, qu'on le veuille ou non. Et moi, je voyage depuis 1994. Parce qu'on n'est pas chez soi, on n'est pas en chemin pour retrouver de la famille. On est en état permanent d'exploration. Et en chemin, on a tout le loisir et le temps pour penser et accueillir des choses différentes. On évolue à un niveau différent, en fin de compte.
Different level, really, because you know.
Parce que ces concerts laissent une marque sur vous. Ils vous changent.
They leave a mark.
Vous êtes en permanence dans ce mode.
They change you.
Un voyageur.
You're continually in this kind of mode. A traveler.
Ouais, un voyageur.
Yeah, a traveler.
J'ai l'impression que votre album solo paru en 2004 est l'album du burn-out pour vous. Quand je pense au texte de Happy Violentine ou encore à Professional Distortion, parce que vous dites « je dois briller, je dois sourire, embrasser des tas de joues, mettre des amis sur la guest list, me lever tous les jours, me maquiller, m'habiller ». Me pointer et passer des disques toute la nuit, je n'ai pas le droit de me plaindre, je dois faire semblant, je dois briller. Là, c'est vous craquez complètement, mais vous le dites, vous l'écrivez sur, et vous le posez sur un morceau.
C'est fort parce que j'avais jamais vu les choses sous cet angle. Mais là, c'est flagrant, oui. Oui, c'est... On n'écrit jamais sur des choses très joyeuses. On devrait d'ailleurs un peu moins nourrir le mythe de l'artiste maudit, ça nous aiderait. Mais oui, effectivement, en 2006, j'ai fait un micro-burnout. C'était pas si grave que ça, mais je me suis effondrée en larmes dans un aéroport sans raison, en me disant « mais pourquoi je suis si mal alors que ma vie va bien ?» Et bien entourée, on m'a dit de m'arrêter 3 mois. Donc je m'étais jamais arrêtée 3 mois depuis que j'avais commencé. Et j'ai réalisé quelque chose qui reste mon plus grand garde-fou aujourd'hui, c'est que je passais ma vie et ma passion et mon temps à faire du bien à des inconnus et que j'étais pas là pour les gens que j'aime. Je voyais mes amis sans qui je ne serais pas qui je suis. Je les voyais grandir, je les voyais avoir des enfants. Et j'étais jamais là, ni dans les moments heureux, ni dans les moments où ils avaient besoin de moi. Et ça a été mon premier réflexe pendant ces 3 mois, c'est de rendre visite à mes amis. Et donc je suis venue à Paris, j'ai vu mes proches copines. Et je suis jamais repartie.
c'est sans doute pour cette raison que sur l'album Cosmos, Miss Keating, vous dites, sous forme d'injonction ou peut-être de conseil à vous-même ou aux autres, il faut douter de tout, tout remettre en cause ou simplement être vigilante. Et sur ce même album, sur le morceau Cosmic Address, qui ouvre d'ailleurs ce LP, vous dites, je suis tout à fait à ma place, exactement là où j'ai toujours voulu être. Je précise que l'album est sorti en 2018, donc 5 ans plus tard, c'est encore le cas.
Exactement. Et j'avais peut-être besoin de me le dire parce que je me suis si longtemps pas sentie à ma place. Et je réalise que c'est ma force en réalité sur la longueur. Trop pop pour la techno, trop techno pour la pop, trop de voix, pas assez de voix, trop pas assez, c'est existentiel comme question. Et c'est l'âge hein, qui apaise toutes ces choses où enfin on trouve une paix intérieure.
Keating, Technothérapie de rêve en rêve, un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Gaël Gillon. Avec Miss Keating, Marc Moore, Azo, Alexis Bernier, Étienne de Crécy, DJ West Bam, DJ Stingray et Luke Slater. Prise de son, Benjamin Thuot, Virginie Lorda, Bastien Varigo et Dimitri Paz. Mixage, Benjamin Thuot. Archivina, Emmanuel Luccioni. Documentation, Annelise Signoret. Doublage, Lise Combe, Maëra Chouaki, Laurent Lederer et Clara Chabalier. Chargée de programme, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Cavran et Johanna Bedeau.